Vendredi 6 juillet 2018, libération. Yeah, yeah, on respire mieux. J'espère que le moral est bon. Ben, il y en a qui aiment ça, la canicule, mais je trouve que hein, ça faisait... il était temps que ça finisse après 16 jours. Alors, Hélène Denis avec vous de bonne humeur et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez survécu à la canicule.
Oui,
vous êtes fait fort, vous.
Oui.
Vous avez même déménagé avec un mal de dos.
Ah, c'était fantastique.
Ah.
J'étais le bonheur de mes voisins.
Comment ça s'est passé? Pourquoi le bonheur de vos voisins?
Parce qu'ils me voyaient traverser la rue tranquillement, boîte par boîte.
Ils n'ont pas aidé du tout?
Quelques-uns.
Ouais.
Mais j'étais pas pressé.
Ouais.
Il faisait chaud.
Tellement pas pressé, vous n'avez pas fini encore.
Ça, c'est une autre histoire.
Bon, alors, ben Mathieu, est-ce que vous avez des histoires à nous raconter liées aux éphémérides?
Oui, 6 juillet. Commençons tout de suite par l'accident triste ferroviaire du lac Mégantic. Donc, le déraillement d'un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut. On se souvient d'ailleurs, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui en mémoire de cet triste événement. En 2000, à Berlin, le Parlement adopte une loi d'indemnisation des victimes du travail forcé sous le régime nazi. En 1988, comme vous avez remarqué, je retourne dans le temps aujourd'hui, à Ottawa, adoption d'une loi renforçant le bilinguisme dans les services gouvernementaux. En 1987, les gouvernements d'Ottawa et de Victoria s'entendent pour convertir en parc la portion sud des îles de la Reine Charlotte. 1975, un grêlon de 249 grammes est pesé près de Wetaskiwin, en Alberta.
Ah!
C'est quand même gros, ça.
J'essaie d'imaginer.
J'essaie toujours de comparer avec ce que je connais en
ouais.
Nourriture.
Puis, qu'est-ce que vous donneriez comme exemple?
Je sais que je coupe mon beurre en 250 grammes. Fait que je sais à peu près c'est quelle grosseur.
Une mode de beurre.
C'est assez gros, en fait. Oui, c'est assez gros. 1965, début d'une grève de 850 détaillants d'essence au Québec. 1957, l'Américaine Althea Gibson est la première personne noire à gagner au tennis à Wimbledon. Son compatriote Arthur H. en fera autant côté masculin en 1975.
Arthur H.? Comme
ben
auteur,
oui.
Compositeur, interprète.
Oui.
Eh bien.
A-S-H-E.
A.
Comme cendre, si je ne me trompe pas.
Ashes.
H. Ben, il n'y a pas de S.
Bon.
Donc H.
Comme cendre, mais sans S.
1919, première traversée de l'Atlantique par un dirigeable britannique. En 1917, à Ottawa, le gouvernement Borden fait adopter sa loi de conscription militaire. Un accident de la fabrique Canadian Explosive Limited de Belleuil fait 15 morts en 1915. Louis Pasteur, en 1885, réussit son premier test de vaccin, l'inoculant à un enfant qui avait été mordu par un chien enragé. Signature du traité de Londres, par lequel la Russie, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent l'autonomie de la Grèce et imposent une trêve à l'Empire ottoman. C'était en 1827. Les armées de Napoléon battent les Autrichiens en 1809. On remonte en 1699. William Kidd, accusé de piraterie, est arrêté à Boston. Il sera pendu en Angleterre. Et on remonte en 1535. C'est rare qu'on remonte aussi loin que ça. Mais le chancelier Thomas More, pour refus de l'autorité spirituelle de Henri VIII, est décapité pour trahison. Pour ce qui est des naissances du 6 juillet dans l'histoire, 1927, née Morrison, l'actrice américaine Janet Leigh. Et le Dalai Lama Tenzin Gyatso, est né au Tibet en 1935. Et pour ce qui est des décès, le ténor québécois Auriel Barrette, membre fondateur de l'Union des artistes, est décédé en 2006.
Comment s'appelait-il?
Auriel Barrette.
Ah, je ne sais pas si c'est parent avec le ministre de la Santé.
J'ai aucune idée, je ne sais pas.
On va l'appeler.
Le trompettiste Louis Armstrong est décédé en 1971.
Ah, c'est hier qu'il naissait, je crois.
En 1900, oui.
Ouais.
William Faulkner, l'écrivain américain, est né en 1940. 1897, mais est décédé un 6 juillet 1962. Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec, est décédé en 1952. Et Guy de Maupassant nous quittait un 6 juillet 1893. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci, mon cher.
Le plaisir.
À la une de la presse, agriculture, les champs ont besoin d'eau. Après une semaine de canicule, de nombreux agriculteurs s'inquiètent de l'absence de pluie dans les prochains jours. Déjà, les conditions météo ont un effet sur la qualité de certaines récoltes. Streetwear, le culte de la marque, pièce en édition limitée, collaboration avec des artistes, la marque Supreme est devenue un véritable phénomène. McGill, dépeint comme un prédateur, un professeur poursuit une étudiante. Fantasia ou Fantasia, la peur se porte bien, le 22e festival Fantasia profite d'une période faste pour le cinéma d'horreur. Mathieu l'a souligné dans les éphémérides, Lac Mégantic se souvient sous les étoiles. 5 années ont passé depuis la tragédie de juillet 2013 à Lac Mégantic, mais la petite ville des Cantons de l'Est est toujours marquée par la mort de 47 des siens et la destruction de sa rue principale. Hier soir, quelques 200 citoyens endeuillés ont défilé en silence de l'église Sainte-Agnès jusqu'au cimetière local pour montrer qu'ils n'ont rien oublié. Les mouvements involontaires de train inquiètent Garneau. L'augmentation des mouvements involontaires de train comme celui qui a causé la tragédie de Lac Mégantic il y a 5 ans préoccupe le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, au point où celui-ci a récemment demandé de rencontrer les dirigeants de 2 sociétés ferroviaires pour en discuter. Le ministre a fait parvenir une lettre au Canadien national et au Canadien Pacifique le 12 juin, affirmant qu'il prenait la chose très au sérieux. Dans cette lettre que la presse canadienne a obtenue, M. Garneau note que le Bureau de la sécurité des transports a recensé 58 mouvements non contrôlés en 2016, 51 en 2017 et 62 en 2018. Ces incidents, qui sont surtout survenus dans des gares de triage, n'ont pas eu de conséquences tragiques comme à Lac Mégantic, mais ils constituent tout de même un risque. La présidente du BST, le Bureau de la sécurité des transports, Kathleen Fox, a rappelé en entrevue mercredi que le ministère des Transports et l'industrie ferroviaire devaient prendre des mesures supplémentaires pour réduire ce type de mouvement inattendu, comme doter les trains de freins d'urgence qui s'actionnent automatiquement. Une porte-parole du ministre Garneau a rappelé qu'il avait déposé à la Chambre des communes en avril un rapport d'examen de la loi sur la sécurité ferroviaire. M. Garneau n'était pas disponible pour une entrevue. Son bureau a confirmé qu'il participerait aujourd'hui à la messe commémorative à Lac Mégantic. Démolir ou rénover un bâtiment au centre-ville de Montréal deviendra plus difficile. Disant vouloir mieux protéger son patrimoine, l'arrondissement de Ville-Marie a multiplié par 50 les garanties imposées pour obtenir un permis, en plus de tripler les amendes. Ces mesures inquiètent les promoteurs qui voient une nouvelle barrière. Ville-Marie est un arrondissement très convoité par les promoteurs immobiliers. On pense qu'on doit mieux encadrer le redéveloppement de certains secteurs, a justifié la conseillère Anne-Marie Sigouin lors de la séance du conseil d'arrondissement de mercredi. L'autoroute 15 sera complètement fermée en direction nord durant toute la fin de semaine au cœur de l'échangeur Turcot à partir du boulevard de la Vérendrye dans le sud-ouest de Montréal jusqu'à l'entrée du boulevard Édouard-Montpetit dans le secteur de Côte-des-Neiges. En conséquence, toutes les bretelles qui donnent accès à l'autoroute 15 Nord à partir de l'autoroute 20, de la route 136, autoroute Ville-Marie, ou du boulevard de la Vérendrye seront aussi fermées. De plus, l'entrée de l'autoroute des Carrés à 15 Nord, en provenance de la rue Sherbrooke, sera, elle, fermée à compter de minuit ce soir, de même que la sortie 64 de l'autoroute 15 Nord qui mène à la rue Sherbrooke. Ces deux liens entre la rue Sherbrooke et l'autoroute des Carrés ne rouvriront pas avant septembre et octobre prochains, respectivement. Ces entraves de week-end ne sont que les préliminaires de fermetures partielles qui auront beaucoup plus de conséquences négatives sur la circulation en permanence à partir de lundi matin. Dans un bulletin diffusé en début de semaine et dans les publicités annonçant la mise en place de ces entraves, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports prévient que cette configuration temporaire entraînera une importante congestion routière sur l'autoroute des Carrés et aux approches. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, placé devant une accusation d'inconduite sexuelle vieille de 18 ans, s'est à nouveau défendu hier d'avoir agi de façon inappropriée. « Je n'ai pas le sentiment d'avoir agi le moins du monde de façon inappropriée, mais je respecte le fait que quelqu'un d'autre ait pu vivre ça différemment », a-t-il déclaré. M. Trudeau était interrogé après un entretien à Toronto avec le nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, sur une allégation selon laquelle il se serait comporté de manière déplacée avec une journaliste lors d'un festival de musique en 2000 en Colombie-Britannique. Un plongeur thaïlandais est mort hier après avoir approvisionné les enfants coincés depuis 13 jours dans une grotte inondée dans le nord du pays, un coup dur pour les sauveteurs. Après avoir livré une réserve d'oxygène sur le chemin du retour, il n'avait plus assez d'oxygène lui-même, a annoncé le vice-gouverneur de la province de Chiang Rai, Passacorn Bunyaluk. Cet ancien membre des commandos de marine thaïlandais a perdu connaissance sur le chemin du retour. Son compagnon de plongée a essayé de l'aider et de le ramener, a précisé le chef des commandos de marine. Même si nous avons perdu un homme, nous continuons à avoir foi dans notre mission. Ce drame vient rappeler la difficulté du parcours de plongée pour accéder aux 12 enfants et à leur entraîneur de soccer, coincés dans cette grotte inondée. Les secours se hâtaient hier d'avancer dans leurs préparatifs d'évacuation avant le retour annoncé de la pluie. Ils espèrent pouvoir, à l'aide de pompes, faire baisser suffisamment le niveau de l'eau à temps pour que les enfants n'aient pas ou aient peu de plongée à effectuer. Justice pour Abou. Un millier de personnes ont participé hier à une marche blanche à Nantes, dans l'ouest de la France, pour réclamer la vérité sur la mort d'un jeune de 22 ans. Abou Bakar F., victime il y a 2 jours d'un tir policier qui a enflammé plusieurs quartiers pour une troisième nuit consécutive. C'est sur les lieux du drame que les habitants du quartier de Breil, théâtre de violence depuis la mort du jeune homme, se sont réunis en fin d'après-midi pour commencer leur marche blanche. « Bavure » et « Police tue » ont été écrits sur le muret où la voiture conduite par la victime s'est encastrée après que le jeune homme eût été touché par le tir. Boubacar F., qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisée, a été tué alors qu'il tentait d'éviter un contrôle policier en effectuant une marche arrière en voiture. Un policier a alors fait feu une seule fois sur le chauffeur, l'atteignant au cou. L'auteur du tir mortel a été placé en garde à vue hier pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon les 5 collègues du policier arrêté, le conducteur avait fait une marche arrière à très vive allure au point de risquer de renverser 2 des 4 enfants qui jouaient sur la chaussée. Et pour terminer, le Parti québécois ajoute sa voix au débat entourant la production de Slave et dénonce une défaite pour la liberté artistique et d'expression face à un procès d'intention. Alors que le metteur en scène Robert Lepage parle d'un coup porté à la liberté d'expression artistique, le critique péquiste en matière de culture Pascal Bérubé interpelle la ministre Marie Montpetit pour qu'elle s'exprime sur cet enjeu important.
Viens mon moteur, j'ai la pizza puis des pickles. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in a door pop. Viens mon moteur, t'as pas tes scoopies. J'suis bonne à des castels, j'peux t'aider à comprendre. Si jamais t'es mêlé, je peux t'aider à tes plans. Si t'as quelque chose à dire, puis ça pèse sur ton cœur, je suis prête à l'entendre. Viens mon motel, j'ai la pizza puis des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper. Y'a des portes qui restent barrées, des cendres qui soufflent. Y'a des TV qui jouent fort, du monde qui s'engueule, du monde qui prend des wake-up calls juste pour pas se réveiller seul. Ils viennent au moment.
Motel 1755, les Hey Babies.
À la une du Devoir de ce 6 juillet 2018, une photo de Tony Accurso. Accurso, derrière les barreaux, le roi de la construction, porte en appel sa condamnation à 4 ans de pénitencier. Sans son appui, le système collusionnaire n'aura pas pu durer. C'est l'appât du gain qui a motivé M. Accurso, dit James Brunton. Musique, le chemin qu'il faut, Lido Pimienta de la Papessa à Miss Colombia. Toujours en culture, Loud, le rappeur québécois que la France attendait, sera au Festival d'été de Québec. La canicule est maintenant terminée, mais le bilan s'est alourdi, 38 morts. Lac Mégantic, 5 ans après la tragédie. La canicule pourrait avoir causé la mort de 38 personnes depuis le début de la vague de chaleur extrême qui balaie le Québec. Le bilan de 33 décès en matinée jeudi s'est alourdi à 38 en fin de journée. Montréal fait état de 18 décès, l'Estrie 7, la Mauricie-Centre du Québec 6 et la Montérégie 6. À cela s'ajoute un mort à Laval. Les décès sont tous survenus dans la communauté et non pas dans des CHSLD ou dans des hôpitaux. Les hommes atteints de maladies chroniques ou d'une maladie mentale, vivant seuls dans des milieux défavorisés ou des îlots de chaleur sont les plus touchés, selon le Dr Arruda, à la lumière des informations disponibles jusqu'à maintenant. Les Montréalais qui sont décédés étaient des hommes de 53 à 85 ans. À Montréal, une opération de porte-à-porte qui se poursuivait jeudi avait déjà permis de rejoindre 34 000 ménages parmi les plus à risque. La pression se maintient sur les services ambulanciers et InfoSanté. Montréal fait de plus face à un épisode de smog. Ces morts pouvaient-elles être évitées? Nous faisons le mieux que nous pouvons, assurer la ministre responsable de la Santé publique, Lucie Charlebois. Cette dernière a déploré la petite politique faite par ses opposants, qui promettent de climatiser tous les établissements de santé du Québec. « Ce n'est pas vrai que tu peux rénover tous les établissements dans la même journée », a-t-elle déploré, sans « ça me heurte beaucoup ». Et en terminant, toujours en ce qui concerne la canicule, même si le mercure doit rejoindre les normales à partir de vendredi aujourd'hui, la directrice de la santé publique de la Mauricie, la docteure Marie-Josée Gaudy, a rappelé que les effets de la canicule pouvaient continuer à avoir des conséquences pendant quelques jours encore. Trois individus, dont deux anciens fonctionnaires du ministère de la Justice du Québec, ont été arrêtés par l'unité permanente anticorruption jeudi dans le cadre d'une enquête de corruption. Il s'agit de Christian Tessier, de Dormant Laberge, deux anciens directeurs des services à la clientèle et technologiques au ministère de la Justice du Québec, et de Sylvain Tremblay, administrateur d'une firme fournissant des services informatiques. Les trois hommes sont accusés de fraude envers le gouvernement et d'abus de confiance. Selon l'UPAC, la preuve recueillie tend à démontrer qu'entre 2000 et 2014, des fonctionnaires ont reçu des sommes d'argent afin de favoriser la firme lors d'octroi de contrats informatiques au ministère. Certains des plus importants groupes de défense des droits de la personne et de contrôle des armements du Canada exigent que le gouvernement Trudeau procède à une enquête indépendante pour déterminer si les forces saoudiennes ont utilisé des véhicules blindés fabriqués au Canada contre des civils l'année dernière. Il lance cet appel après qu'Affaires mondiales Canada eut conclu au terme de son propre examen qu'il n'y avait aucune information vérifiée et crédible, laissant entendre que des véhicules Teradyne Gurkha fabriqués au Canada avaient été utilisés pour commettre de graves violations des droits de la personne en juillet 2017. Une partie donc de l'éditorial de Christian Rioux. Nous étions au marché de la poésie qui se tient chaque année sur la place Saint-Sulpice à Paris. J'évoquais ces lynchages médiatiques devenus pratiques courantes sur Internet lorsqu'une jeune Québécoise fit irruption dans la conversation. « Avez-vous conscience de ce que vous venez de dire? » demanda-t-elle, comme si je venais de blasphémer. Dans ma grande naïveté, il me fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle me reprochait l'usage du mot « lynchage ». Et mon interlocutrice de m'expliquer le plus doctement du monde qu'il ne fallait pas utiliser ce mot, parce qu'il était associé au passé douloureux des Noirs du sud des États-Unis. J'eus beau prétexter que la métaphore était acceptée par tous les dictionnaires, mon inquisitrice n'en avait cure. Elle avait son propre dictionnaire moral dans lequel il était écrit que si je prononçais ce mot, on était en droit de me soupçonner de racisme. Après les aéroports, les trains, l'électricité, le gaz et l'eau, Serait-ce au tour des mots d'être privatisé? Voilà que des groupes et des lobbies revendiquent l'usage exclusif de certains d'entre eux. Demain, les Irlandais qui ont souffert de terribles famines nous interdiront-ils de parler de boycottage, un mot directement associé au combat des fermiers irlandais, et les chrétiens, eux, réclameront-ils l'exclusivité de la crucifixion? Ceux qui reprochent aux créateurs de Slaves de s'être appropriés, entre guillemets, des œuvres qui ne leur appartenaient pas pratiquent la même logique intégriste que ces islamistes qui accusaient Charlie Hebdo d'avoir caricaturé Mahomet. Pour ces idéologues imperméables à toute forme d'universalisme, le blues appartient aux Noirs, Mahomet aux musulmans et les chansons à répondre aux Québécois. Décès de Claude Lanzmann, le réalisateur du Shoah. Le cinéaste a autant marqué l'histoire du cinéma que celle de l'extermination du peuple juif à qui il a donné la sépulture qui lui manquait. Cinéaste, réalisateur du monumental Shoah, écrivain, philosophe et journaliste, Claude Lanzmann, mort jeudi à 92 ans, a traversé le 20e siècle avec la volonté irréductible de témoigner et de se battre pour les causes qu'il estimait justes. La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J'aime la vie à la folie, même si elle n'est pas le plus souvent marrante, confiait-il récemment à un journaliste. Brisé par la mort l'an dernier de son fils Félix, emporté à 23 ans par un cancer impitoyable, Claude Lanzmann est mort jeudi à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Claude Lanzmann fut cet homme incroyable qui a offert au monde le mot « Shoah » pour dire l'indicible, a confié pour sa part le grand rabbin de France, Haïm Kourzia. Le cinéaste et écrivain, né le 27 novembre 1925, avait raconté son parcours dans son livre de souvenirs, Le Lièvre de Patagonie. Il y expliquait comment, enfant, au lycée Condorcet à Paris, il découvrit l'antisémitisme. Vendredi 6 juillet 2018, Libération.
Vous écoutez le quotidien
On respire mieux. J'espère que
2018,
le moral est bon.
Température,
il y en a qui aiment ça, la canicule. Mais je trouve
reste
que...
Reste avec nous.
Hein, ça faisait... il était temps que ça finisse après 16 jours. Alors, Hélène Denis avec vous de bonne humeur et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez survécu à la canicule.
Oui,
oui, vous êtes fait fort, vous.
Oui.
Vous avez même déménagé avec un mal de dos.
Ah, c'était fantastique.
Ah.
J'étais le bonheur de mes voisins.
Comment ça s'est passé? Pourquoi le bonheur de vos voisins?
Parce qu'ils me voyaient traverser la rue tranquillement, boîte par boîte.
Ils vous ont pas aidé du tout?
Quelques-uns.
Oui.
Mais j'étais pas pressé.
Oui. Faisait chaud. Tellement pas pressé, vous avez pas fini encore.
Ça, c'est une autre histoire.
Bon, alors, Mathieu, est-ce que vous avez des histoires à nous raconter liées aux éphémérides?
Oui, 6 juillet. Commençons tout de suite par l'accident triste ferroviaire du lac Mégantic, donc le déraillement d'un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut. On se souvient d'ailleurs, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui en mémoire de cet triste événement. En 2000, à Berlin, le Parlement adopte une loi d'indemnisation des victimes du travail forcé sous le régime nazi. En 1988, comme vous avez remarqué, je retourne dans le temps aujourd'hui, à Ottawa, adoption d'une loi renforçant le bilinguisme dans les services gouvernementaux. En 1987, les gouvernements d'Ottawa et de Victoria s'entendent pour convertir en parc la portion sud des îles de la Reine Charlotte. 1975, un grain long de 249 grammes est pesé près de Wetaskiwin, en Alberta.
Ah!
C'est quand même gros, ça.
J'essaie d'imaginer.
J'essaie toujours de comparer avec ce que je connais en nourriture.
Puis, qu'est-ce que vous donneriez comme exemple?
Je sais que je coupe mon beurre en 250 grammes. Fait que je sais à peu près c'est quelle grosseur.
Une mode de beurre.
C'est assez gros, en fait. Oui, c'est assez gros. 1965, début d'une grève de 850 détaillants d'essence au Québec. 1957, l'Américaine Althea Gibson est la première personne noire à gagner au tennis à Wimbledon. Son compatriote Arthur H. en fera autant côté masculin en 1975.
Arthur H. Comme ben auteur, oui. Compositeur, ah, interprète. Oui. Eh bien.
A-S-H-E. Ah. Comme cendre, si je ne me trompe pas.
Ashes.
H. Ben, il n'y a pas de S. Bon. Donc H.
Comme cendre, mais sans S.
1919, première traversée de l'Atlantique par un dirigeable britannique. En 1917, à Ottawa, le gouvernement Borden fait adopter sa loi de conscription militaire. Un accident de la fabrique Canadian Explosive Limited de Belleuil fait 15 morts en 1915. Louis Pasteur, en 1885, réussit son premier test de vaccin, l'inoculant à un enfant qui avait été mordu par un chien enragé. Signature du traité de Londres, par lequel la Russie, la France et la Grande-Bretagne reconnaissent l'autonomie de la Grèce et imposent une trêve à l'Empire ottoman. C'était en 1827. Les armées de Napoléon battent les Autrichiens en 1809. On remonte en 1699. William Kidd, accusé de piraterie, est arrêté à Boston. Il sera pendu en Angleterre. Et on remonte en 1535. C'est rare qu'on remonte aussi loin que ça. Mais le chancelier Thomas More, pour refus de l'autorité spirituelle de Henri VIII, est décapité pour trahison. Pour ce qui est des naissances du 6 juillet dans l'histoire, 1927, née Morrison, l'actrice américaine Janet Leigh. Et le Dalai Lama Tenzin Gyatso, oui, est né au Tibet en 1935. Et pour ce qui est des décès, le ténor québécois Auriel Barrette, membre fondateur de l'Union des artistes, est décédé en 2006.
Comment s'appelait-il?
Auriel Barrette.
Ah, je ne sais pas si c'est parent avec le ministre de la Santé.
J'ai aucune idée, je ne sais pas.
On va l'appeler.
Le trompettiste Louis Armstrong est décédé en 1971.
Ah, c'est hier qu'il naissait, je crois.
En 1900, oui.
Oui.
William Faulkner, l'écrivain américain, est né en 1897, mais est décédé un 6 juillet 1962. Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec, est décédé en 1952. Et Guy de Maupassant nous quittait un 6 juillet 1893. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci, mon cher.
Le plaisir.
À la une de la presse, agriculture, les champs ont besoin d'eau. Après une semaine de canicule, de nombreux agriculteurs s'inquiètent de l'absence de pluie dans les prochains jours. Déjà, les conditions météo ont un effet sur la qualité de certaines récoltes. Streetwear, le culte de la marque, pièce en édition limitée, collaboration avec des artistes, la marque Supreme est devenue un véritable phénomène. McGill, dépeint comme un prédateur, un professeur poursuit une étudiante. Fantasia ou Fantasia, la peur se porte bien, le 22e festival Fantasia profite d'une période faste pour le cinéma d'horreur. Mathieu l'a souligné dans les éphémérides, de Lac Mégantic se souvient sous les étoiles. 5 années ont passé depuis la tragédie de juillet 2013 à Lac Mégantic, mais la petite ville des Cantons de l'Est est toujours marquée par la mort de 47 des siens et la destruction de sa rue principale. Hier soir, quelques 200 citoyens endeuillés ont défilé en silence de l'église Sainte-Agnès jusqu'au cimetière local pour montrer qu'ils n'ont rien oublié. Les mouvements involontaires de train inquiètent Garneau. L'augmentation des mouvements involontaires de train comme celui qui a causé la tragédie de Lac-Mégantic il y a 5 ans, préoccupe le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, au point où celui-ci a récemment demandé de rencontrer les dirigeants de 2 sociétés ferroviaires pour en discuter. Le ministre a fait parvenir une lettre au Canadien national et au Canadien Pacifique le 12 juin, affirmant qu'il prenait la chose très au sérieux. Dans cette lettre que la presse canadienne a obtenue, M. Garneau note que le Bureau de la sécurité des transports a recensé 58 mouvements non contrôlés en 2016, 51 en 2017 et 62 en 2018. Ces incidents, qui sont surtout survenus dans des gares de triage, n'ont pas eu de conséquences tragiques comme à Lac-Mégantic, mais ils constituent tout de même un risque. La présidente du BST, le Bureau de la sécurité des transports, Kathleen Fox, a rappelé en entrevue mercredi que le ministère des Transports et l'industrie ferroviaire devaient prendre des mesures supplémentaires pour réduire ce type de mouvement inattendu, comme doter les trains de freins d'urgence qui s'actionnent automatiquement. Une porte-parole du ministre Garneau a rappelé qu'il avait déposé à la Chambre des communes en avril un rapport d'examen de la loi sur la sécurité ferroviaire. M. Garneau n'était pas disponible pour une entrevue. Son bureau a confirmé qu'il participerait aujourd'hui à la messe commémorative à Lac-Mégantic. Démolir ou rénover un bâtiment au centre-ville de Montréal deviendra plus difficile, disant vouloir mieux protéger son patrimoine. L'arrondissement de Ville-Marie a multiplié par 50 les garanties imposées pour obtenir un permis, en plus de tripler les amendes. Ces mesures inquiètent les promoteurs qui voient une nouvelle barrière. Ville-Marie est un arrondissement très convoité par les promoteurs immobiliers. On pense qu'on doit mieux encadrer le redéveloppement de certains secteurs, a justifié la conseillère Anne-Marie Sigouin lors de la séance du conseil d'arrondissement de mercredi. L'autoroute 15 sera complètement fermée en direction nord durant toute la fin de semaine au cœur de l'échangeur Turcot à partir du boulevard de la Vérendrye dans le sud-ouest de Montréal jusqu'à l'entrée du boulevard Édouard-Montpetit dans le secteur de Côte-des-Neiges. En conséquence, toutes les bretelles qui donnent accès à l'autoroute 15 Nord à partir de l'autoroute 20, de la route 136, autoroute Ville-Marie, ou du boulevard de la Vérendrye seront aussi fermées. De plus, l'entrée de l'autoroute des Carrés à 15 Nord, en provenance de la rue Sherbrooke, sera, elle, fermée à compter de minuit ce soir, de même que la sortie 64 de l'autoroute 15 Nord qui mène à la rue Sherbrooke. Ces deux liens entre la rue Sherbrooke et l'autoroute des Carrés ne rouvriront pas avant septembre et octobre prochains, respectivement. Ces entraves de week-end ne sont que les préliminaires de fermetures partielles qui auront beaucoup plus de conséquences négatives sur la circulation en permanence à partir de lundi matin. Dans un bulletin diffusé en début de semaine et dans les publicités annonçant la mise en place de ces entraves, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports prévient que cette configuration temporaire entraînera une importante congestion routière sur l'autoroute des Carrés et aux approches. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, placé devant une accusation d'inconduite sexuelle vieille de 18 ans, s'est à nouveau défendu hier d'avoir agi de façon inappropriée. « Je n'ai pas le sentiment d'avoir agi le moins du monde de façon inappropriée, mais je respecte le fait que quelqu'un d'autre ait pu vivre ça différemment », a-t-il déclaré. M. Trudeau était interrogé après un entretien à Toronto avec le nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, sur une allégation selon laquelle il se serait comporté de manière déplacée avec une journaliste lors d'un festival de musique en 2000 en Colombie-Britannique. Un plongeur thaïlandais est mort hier après avoir approvisionné les enfants coincés depuis 13 jours dans une grotte inondée dans le nord du pays. Un coup dur pour les sauveteurs. Après avoir livré une réserve d'oxygène sur le chemin du retour, il n'avait plus assez d'oxygène lui-même, a annoncé le vice-gouverneur de la province de Chiang Rai, Pasakorn Bunyaluk. Cet ancien membre des commandos de marine thaïlandais a perdu connaissance sur le chemin du retour. Son compagnon de plongée a essayé de l'aider et de le ramener, a précisé le chef des commandos de marine. Même si nous avons perdu un homme, nous continuons à avoir foi dans notre mission. Ce drame vient rappeler la difficulté du parcours de plongée pour accéder aux 12 enfants et à leur entraîneur de soccer, coincés dans cette grotte inondée. Les secours se hâtaient hier d'avancer dans leurs préparatifs d'évacuation avant le retour annoncé de la pluie. Ils espèrent pouvoir, à l'aide de pompes, faire baisser suffisamment le niveau de l'eau à temps pour que les enfants n'aient pas ou aient peu de plongée à effectuer. Justice pour Abou. Un millier de personnes ont participé hier à une marche blanche à Nantes, dans l'ouest de la France, pour réclamer la vérité sur la mort d'un jeune de 22 ans. Abou Bakar F., victime il y a 2 jours d'un tir policier qui a enflammé plusieurs quartiers pour une 3e nuit consécutive. C'est sur les lieux du drame que les habitants du quartier de Breil, théâtre de violence depuis la mort du jeune homme, se sont réunis en fin d'après-midi pour commencer leur marche blanche. « Bavure » et « Police tue » ont été écrits sur le muret où la voiture conduite par la victime s'est encastrée après que le jeune homme eût été touché par le tir. Boubacar F., qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisée, a été tué alors qu'il tentait d'éviter un contrôle policier en effectuant une marche arrière en voiture. Un policier a alors fait feu une seule fois sur le chauffeur, l'atteignant au cou. L'auteur du tir mortel a été placé en garde à vue hier pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon les 5 collègues du policier arrêté, le conducteur avait fait une marche arrière à très vive allure au point de risquer de renverser 2 des 4 enfants qui jouaient sur la chaussée. Et pour terminer, le Parti québécois ajoute sa voix au débat entourant la production de Slav et dénonce une défaite pour la liberté artistique et d'expression face à un procès d'intention. Alors que le metteur en scène Robert Lepage parle d'un coup porté à la liberté d'expression artistique, le critique péquiste en matière de culture Pascal Bérubé interpelle la ministre Marie Montpetit pour qu'elle s'exprime sur cet enjeu important.
Viens mon moteur, j'ai la pizza puis des pickles. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in Europa. Viens mon moteur, t'as pas d'être coupé. J'suis bonne à des castels, j'peux t'aider à camper. Si jamais t'es mêlé, je peux t'aider à tes plans. Si t'as quelque chose à dire, pis ça pèse sur ton cœur, je suis prête à l'entendre. Viens mon motel, j'ai la pizza pis des pickles. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper. Y'a des portes qui restent barrées, des cendres qui soufflent, y'a des TV qui jouent fort, du monde qui s'engueule, du monde qui prennent des wake-up calls juste pour pas se réveiller seul. Yeah.
Hôtel 1755, les Hey Babies.
À la une du Devoir de ce 6 juillet 2018, une photo de Tony Accurso. Accurso, derrière les barreaux, le roi de la construction, porte en appel sa condamnation à 4 ans de pénitencier. Sans son appui, le système collusionnaire n'aura pas pu durer. C'est l'appât du gain qui a motivé M. Accurso, dit James Brunton. Musique, le chemin qu'il faut, Lido Pimienta de la Papessa à Miss Colombia. Toujours en culture, Loud, le rappeur québécois que la France attendait, sera au Festival d'été de Québec. La canicule est maintenant terminée, mais le bilan s'est alourdi, 38 morts. Lac Mégantic, 5 ans après la tragédie. La canicule pourrait avoir causé la mort de 38 personnes depuis le début de la vague de chaleur extrême qui balaie le Québec. Le bilan de 33 décès en matinée jeudi s'est alourdi à 38 en fin de journée. Montréal fait état de 18 décès, l'Estrie 7, la Mauricie Centre du Québec 6 et la Montérégie 6. À cela s'ajoute un mort à Laval. Les décès sont tous survenus dans la communauté et non pas dans des CHSLD ou dans des hôpitaux. Les hommes atteints de maladies chroniques ou d'une maladie mentale, vivant seuls dans des milieux défavorisés ou des îlots de chaleur sont les plus touchés, selon le docteur Arruda, à la lumière des informations disponibles jusqu'à maintenant. Les Montréalais qui sont décédés étaient des hommes de 53 à 85 ans. À Montréal, une opération de porte-à-porte qui se poursuivait jeudi avait déjà permis de rejoindre 34 000 ménages parmi les plus à risque. La pression se maintient sur les services ambulanciers et InfoSanté. Montréal fait de plus face à un épisode de smog. Ces morts pouvaient-elles être évitées? Nous faisons le mieux que nous pouvons, assurer la ministre responsable de la Santé publique, Lucie Charlebois. Cette dernière a déploré la petite politique faite par ses opposants, qui promettent de climatiser tous les établissements de santé du Québec. Ce n'est pas vrai que tu peux rénover tous les établissements dans la même journée, a-t-elle déploré, sans Ça me heurte beaucoup. Et en terminant, toujours en ce qui concerne la canicule, même si le mercure doit rejoindre les normales à partir de vendredi aujourd'hui, la directrice de la santé publique de la Mauricie, la docteure Marie-Josée Gaudy, a rappelé que les effets de la canicule pouvaient continuer à avoir des conséquences pendant quelques jours encore. Trois individus, dont deux anciens fonctionnaires du ministère de la Justice du Québec, ont été arrêtés par l'Unité permanente anticorruption jeudi dans le cadre d'une enquête de corruption. Il s'agit de Christian Tessier, de Dormant Laberge, deux anciens directeurs des services à la clientèle et technologiques au ministère de la Justice du Québec, et de Sylvain Tremblay, administrateur d'une firme fournissant des services informatiques. Les trois hommes sont accusés de fraude envers le gouvernement et d'abus de confiance. Selon l'UPAC, la preuve recueillie tend à démontrer qu'entre 2000 et 2014, des fonctionnaires ont reçu des sommes d'argent afin de favoriser la firme lors d'octroi de contrats informatiques au ministère. « certains des plus importants groupes de défense des droits de la personne et de contrôle des armements du Canada exigent que le gouvernement Trudeau procède à une enquête indépendante pour déterminer si les forces saoudiennes ont utilisé des véhicules blindés fabriqués au Canada contre des civils l'année dernière. Il lance cet appel après qu'Affaires mondiales Canada eut conclu, au terme de son propre examen, qu'il n'y avait aucune information vérifiée et crédible, laissant entendre que des véhicules Teradyne Gurkha fabriqués au Canada avaient été utilisés pour commettre de graves violations des droits de la personne en juillet 2017. Une partie donc de l'éditorial de Christian Rioux. Nous étions au marché de la poésie qui se tient chaque année sur la place Saint-Sulpice à Paris. J'évoquais ces lynchages médiatiques devenus pratiques courantes sur Internet lorsqu'une jeune Québécoise fit irruption dans la conversation. « Avez-vous conscience de ce que vous venez de dire? » demanda-t-elle comme si je venais de blasphémer. Dans ma grande naïveté, il me fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle me reprochait l'usage du mot « lynchage ». Et mon interlocutrice de m'expliquer le plus doctement du monde qu'il ne fallait pas utiliser ce mot, parce qu'il était associé au passé douloureux des Noirs du sud des États-Unis. J'eus beau prétexter que la métaphore était acceptée par tous les dictionnaires, mon inquisitrice n'en avait cure. Elle avait son propre dictionnaire moral dans lequel il était écrit que si je prononçais ce mot, on était en droit de me soupçonner de racisme. Après les aéroports, les trains, l'électricité, le gaz et l'eau, serait-ce au tour des mots d'être privatisés? Voilà que des groupes et des lobbies revendiquent l'usage exclusif de certains d'entre eux. Demain, les Irlandais qui ont souffert de terribles famines nous interdiront-ils de parler de boycottage, un mot directement associé au combat des fermiers irlandais, et les chrétiens, eux, réclameront-ils l'exclusivité de la crucifixion? Ceux qui reprochent aux créateurs de slaves de s'être appropriés, entre guillemets, des œuvres qui ne leur appartenaient pas pratiquent la même logique intégriste que ces islamistes qui accusaient Charlie Hebdo d'avoir caricaturé Mahomet. Pour ces idéologues imperméables à toute forme d'universalisme, le blues appartient aux Noirs, Mahomet aux musulmans et les chansons à répondre aux Québécois. Décès de Claude Lanzmann, le réalisateur du Shoah. Le cinéaste a autant marqué l'histoire du cinéma que celle de l'extermination du peuple juif à qui il a donné la sépulture qui lui manquait. Cinéaste, réalisateur du monumental Shoah, écrivain, philosophe et journaliste, Claude Lanzmann, mort jeudi à 92 ans, a traversé le 20e siècle avec la volonté irréductible de témoigner et de se battre pour les causes qu'il estimait justes. La mort ne va pas de soi. Moi, je ne suis pas du tout pour la mort. Je crois toujours à la vie. J'aime la vie à la folie, même si elle n'est pas le plus souvent marrante, confiait-il récemment à un journaliste. Brisé par la mort l'an dernier de son fils Félix, emporté à 23 ans par un cancer impitoyable, Claude Lanzmann est mort jeudi à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Claude Lanzmann fut cet homme incroyable qui a offert au monde le mot « Shoah », pour dire l'indicible, a confié pour sa part le grand rabbin de France, Haïm Kourzia. Le cinéaste et écrivain, né le 27 novembre 1925, avait raconté son parcours dans son livre de souvenirs, Le Lièvre de Patagonie. Il y expliquait comment, enfant, au lycée Condorcet à Paris, il découvrit l'antisémitisme. Vous écoutez le quotidien des quotidiens de ce vendredi 6 juillet 2018. Belle température, temps plus sec. Yahoo! Restez avec nous.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Eh oui, Bob Marley, could you be loved? Or be loved?
Actualité culturelle, juillet marque le retour de la série Shakespeare in the Park du Répercussion Theatre dans les parcs de Montréal. Cette année, pour son 30e anniversaire, la troupe propose Romeo and Juliet, Love is Love, une version moderne de la tragédie du 16e siècle. 10 interprètes se partageront la scène, dont 2 femmes pour incarner le célèbre couple. À quelques occasions durant l'été, enfants et adolescents pourront participer à un atelier sur l'univers de Shakespeare. En tournée tous les soirs de 19h à 22h jusqu'au 8 août à Montréal et ailleurs au Québec, en anglais avec sous-titres français, c'est gratuit, contribution volontaire, calendrier, répercussionstheatre.com. comme un gala conventionnel. Raphaël Gendron-Martin dans le Journal de Montréal, après en avoir parlé pendant des mois, l'équipe du tout nouveau Grand Montréal Comedy Fest présentait finalement son tout premier gala, son tout premier grand spectacle hier soir à l'Olympia. La soirée, qui avait toutes les allures d'un gala conventionnel, a procuré quelques bons moments, mais s'est aussi avérée plutôt inégale. Pour sa première édition, le nouveau Grand Montréal Comedy Fest ne se targue pas de jouer dans les mêmes plates-bandes que Juste pour rire. L'événement se veut sans prétention et il n'a pas les ambitions de réinventer la roue. Trois spectacles dans trois villes. Le concept de ces grands spectacles, que nous appellerons simplement gala, était original. Au même moment où nous assistions au gala de l'Olympia, le même type de soirée se tenait à Saint-Eustache et Châteauguay. Certains humoristes faisaient la navette d'une ville à l'autre. Le but? Se rapprocher des gens dans les banlieues. Et il faudra voir avec le temps si cette idée en était une bonne ou une fausse bonne. La soirée s'est amorcée de bien modeste façon. Ici, oubliez la musique d'introduction à la Juste pour rire. Le gala a commencé avec un message d'avertissement lu par Patrick Gros et un autre de Martin Petit, l'instigateur du festival. Dans la foule, on sentait très peu d'effervescence. Le public, relativement amorphe au début, s'est lentement réveillé au fil des invités. Lors de la première partie, ce sont les vétérans Laurent Paquin et Martin Petit qui ont de loin fait le plus rire la foule. Le premier a parlé de façon hilarante et originale de la légalisation du pot. Le second a fait mouche en parlant du fait qu'il aura bientôt 50 ans. En utilisant le même sujet du vieillissement dans son numéro au tout début du gala, Mario Tessier a, de son côté, servi plusieurs clichés qui ont raté la cible. Pour sa toute première animation de gala, Nive s'est très bien tiré d'affaire. L'humoriste a établi un bon contact avec le public en plus de livrer deux numéros très efficaces. Après avoir parlé des tout-inclus en début de soirée, il a déridé encore plus la foule au début de la deuxième partie en riant des films indiens de type Bollywood. Avec le pote, là, ici, Raphaël Gendron-Martin nous donne quelques blagues qui ont été lancées pendant la soirée. Avec le pot qui sera légalisé, les games du Canadien ne seront pas meilleures, mais elles seront plus intéressantes à regarder, dit Laurent Paquin. Autre blague, il y a des jeunes du cégep Maisonneuve qui voulaient entrer dans l'État islamique. C'était qui l'orienteur au cégep, dit Martin Petit. Et autre blague, je m'appelle Rosalie et je viens de Saint-Hyacinthe, au cas où il y en a qui se demandaient qui sentait le purin, dit Rosalie Vaillancourt. Le verdict, nous attendions ce premier grand spectacle depuis des mois et la soirée ne passera malheureusement pas à l'histoire. Même si quelques humoristes se sont démarqués, dont Rosalie Vaillancourt dans la deuxième partie, le gala n'a été qu'une enfilade de numéros de stand-up, parfois comique, parfois très moyen. Surtout, le spectacle n'a rien amené de différent des galas que nous voyons chaque année à Juste pour rire. Un petit potin, Anne-Marie Wittenshaw, attend son deuxième enfant. L'animatrice a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Instagram mercredi soir en partageant une photo d'elle-même exhibant fièrement son ventre arrondi. Déjà maman d'une fillette, Emma Rose, qui célébrera ses 5 ans en août, Anne-Marie donnera naissance à une autre fille. Cinq concerts pour les fans de blues, c'est un rendez-vous à Tremblant dès aujourd'hui. C'est en présentant une centaine de prestations mettant en vedette 70 groupes ou artistes que le Festival international du blues de Tremblant célébrera son 25e anniversaire d'ici au 15 juillet. Afin de souligner la tenue de cet événement, dont pratiquement tous les concerts sont offerts gratuitement, le journal s'est entretenu avec le directeur de sa programmation, Guy Primeau, qui nous a fait part de ces incontournables, les voici, alors je vous en donne au moins deux, les deux premiers, Elvin Bishop's Big Fun Trio. Dans les années 60, il y avait un groupe mythique qui s'appelait le Paul Butterfield Blues Band et Elvin Bishop était le guitariste de ce band-là. Il fait partie du Rock and Roll Hall of Fame. C'est une légende du blues, mais une légende qui joue encore. C'est un honneur de le recevoir. Sur la scène Casino, demain à 21h, c'est gratuit. Et l'autre suggestion que je vous lis, Beth Heart. Elle a chanté avec plein de monde, dont Jeff Beck et Slash de Guns N' Roses. Elle a une quinzaine d'albums sous le bras. C'est une chanteuse réputée. Aux États-Unis, quand on parle d'une femme qui chante le blues, c'est LE nom qui vient. Ce sera une première participation pour elle au Festival du blues Beth Hart sur la scène du Casino le 11 juillet à 21h, place Saint-Bernard. C'est gratuit aussi. Scène de combat époustouflante, les acrobates du spectacle Neza, N-E-Z-H-A, l'enfant pirate du Cirque Éloise, en mettent plein la vue aux spectateurs. Le Cirque Éloise réussit un grand coup d'originalité en jumelant l'univers des pirates à celui du folklore asiatique dans sa dernière œuvre, Neza, l'enfant pirate, présentée à Shawinigan tout l'été. Neza, l'enfant pirate, raconte l'histoire d'une jeune fille issue de deux communautés différentes qui tentera de ramener la paix en zone de guerre, déclaré par des pirates au drapeau rouge qui essaient de l'enlever. Le spectateur est surpris dès les premières minutes par une scène de combat où les pirates tentent de kidnapper l'enfant, interprété par Maud Arsenault. Plusieurs poutres, qui ne semblent qu'être des mâts de bateau, deviennent des outils pour les acrobates et surtout pour la jeune fille qui se sauve. Les numéros sont tout en contraste entre l'élégance d'une femme suspendue dans des tissus aériens sur une musique asiatique et les numéros de groupe des pirates où les sauts et les cris se comptent par dizaines. Le fait que l'amphithéâtre tourne sur lui-même facilite les transitions rapides d'un univers à un autre. Et pour terminer, une critique du film « Le retour du héros » de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent et Noémie Merlan. Et c'est André Duchesne dans la presse qui en parle aujourd'hui. Après « Un homme à la hauteur », le réalisateur Laurent Tirard et le comédien Jean Dujardin refont ici équipe dans ce qu'ils connaissent le mieux, la comédie. Et ils le font assez bien. Assez parce que ce long métrage sent beaucoup d'épaisseur et relativement prévisible. Les ficelles du scénario sont grosses, les personnages sont caricaturaux et d'une naïveté navrante pour le spectateur. Les situations sont à l'avenant. C'est burlesque à l'extrême, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de porte qui claque que nous ne sommes pas en plein vaudeville. Dans ces conditions, on voyait venir la finale de très loin. Et c'est bien parce que, à notre propre étonnement, le mécanique, le rythme, les dialogues fonctionnent. Nous nous sommes surpris à sourire, voire à éclater de rire, 3, 4, 5 fois, sinon plus, au cours de ces 90 minutes qui, au bout du compte, nous font conclure que le visionnement, en dépit du manque de subtilité, en valait la peine. Stuck it in my boxing glove. 'Cause anyone who was in love, true wild victory and dumb defeat, knows that I'll take your drug or clean nurse if you come between the sheets.
C'est sa chaleureuse, sympathique chanson Between the Cheats or the Sheet Cheats.
Quel talent et quel triste destin. On en parlait, Mathieu et moi. Elle est morte, Amy Winehouse, le 23 juillet 2011. Ça fera bientôt 7 ans, à l'âge de 27 ans seulement. Et autre triste nouvelle, canicule, le bilan s'élève maintenant à 50 morts. C'est dans la mise à jour de la presse. Le bilan des décès potentiellement liés à la chaleur au Québec s'élève maintenant à au moins 50 morts, a confirmé vendredi matin l'attachée de presse de la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois. Les Québécois ayant souffert de la chaleur au cours de la dernière semaine auront toutefois droit à un court répit vendredi et samedi, alors que le temps demeurera un peu plus frais. Alors, chose promise, chose due, je vous en ai parlé hier des plus beaux jeux d'eau du Grand Montréal. Je vous disais que j'allais y revenir, étant donné que je n'avais pas eu le temps de lire ce dossier qui était dans la presse d'hier concernant la canicule. La canicule, ben, c'est chose du passé, mais il va continuer quand même à faire beau et chaud. Et puis, qui dit beau et chaud, ben, on a envie de profiter de l'eau. Quels sont les parcs à jeux d'eau préférés des lecteurs de la presse? À partir des suggestions reçues lors de notre appel à tous, nous en avons évalué 25 dans le Grand Montréal. Tous sont de bonnes suggestions de sorties amusantes, rafraîchissantes et gratuites. Rire en passant sous une fontaine, courir entre les jets qui surgissent du sol, crier de joie en arrosant une amie avec une lance à eau. Tôt le matin, comme à la tombée du jour, sans risque de noyade et sans frais pour les parents. Voilà tout ce que permettent les parcs de jeux d'eau en forte croissance au Québec. La presse a donc demandé à ses lecteurs leur suggestion de plus beaux jeux d'eau. À partir des réponses obtenues et de recherches dans l'Internet, nous en avons visité 25 dans la grande région de Montréal, ils ont été évalués selon 9 critères: propreté, diversité, esthétique pour tout petit, pour enfants, toilettes, bancs de table, bancs et tables, reste du parc et heures d'ouverture. C'est un test sans prétention. Une visite unique ne peut rendre justice à toutes les installations. Par exemple, elles sont peut-être toujours très propres, sauf lors de notre passage. La bonne nouvelle, c'est que tous ces jeux d'eau valent le détour. On peut se servir de la liste des 25 jeux d'eau comme d'un répertoire. C'est Marie Allard qui signe le dossier. Comme au parc aquatique, les gagnants sont spectaculaires. Les jeux d'eau du parc Père Marquette à Montréal et les jeux d'eau Saint-Vincent à Laval donnent l'impression d'être dans un parc aquatique payant. Ceux du parc de la Gare à Mont-Saint-Hilaire sont plus simples, mais impeccables. Les autres ont leur charme avec leurs faux palmiers et leur arc-en-ciel coloré. Les jeux d'eau du parc Saint-Vincent-Ferrier dans Villeray à Montréal sont l'équivalent d'un voyage express dans le sud. Les jeux d'eau du parc Toe Blake à Vaudreuil-Dorion se démarquent par leur thématique musicale. Il y a même un clavier géant qu'on peut actionner avec les pieds. Quant aux jeux d'eau du parc Carlos d'Alcantara au Faubourg Contrecoeur à Montréal, ils sont magnifiques et construits sous la forme d'un cadran solaire, témoigne Isabelle Gingras, lectrice de la presse. Plusieurs facteurs permettent à un parc de jeux d'eau de devenir un favori. Danny Amiotte apprécie les chaises longues en bois du parc Morgan dans Hochelaga-Maisonneuve puisqu'elles permettent aux parents de jeter un œil aux petits en étant bien installés. Et les tables de pique-nique en font un endroit vraiment sympathique pour les rencontres entre familles lors des canicules, ajoute-t-elle. Valérie Courville se réjouit du fait que les jeux d'eau du parc Antoine Giroir à Boucherville en ont fait un lieu rassembleur. Depuis leur installation, le parc a repris vie et chaque jour, l'occasion de développer de belles amitiés se présente, décrit-elle. Les jeux d'eau sont adjacents à un terrain de soccer et à une cour d'école. Il est donc facile de combler les attentes de la fratrie en une seule sortie, souligne-t-elle. Ninon Ménard fréquente le parc des Éperviers de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour ses jeux d'eau, mais aussi pour toutes les autres activités offertes au même endroit. C'est la même chose au parc La Salle de la Chine qui a tout pour plaire avec ses jeux d'eau, sa pataugeoire, ses piscines, ses terrains de tennis, etc. Pour les villes, les jeux d'eau ont de nombreux avantages. Les coûts de construction sont moins chers que pour une piscine. La période d'ouverture est beaucoup plus longue et même adaptable aux besoins, dit Luc Toupin, directeur général de l'Alliance québécoise du loisir public. Si une canicule survient en septembre, il suffit d'ouvrir une valve pour relancer le bal des jets d'eau. Pas besoin de sauveteurs, ce qui réduit les frais d'exploitation et les difficultés de recrutement, notamment quand les cours ont repris dans les cégeps et les universités. Rien n'est parfait. Des installations ont été la source de flambées de maladies gastro-intestinales, si bien qu'il vaut mieux ne pas boire leur eau et changer les couches des bébés loin de leurs jets. Autre problème, les jeux d'eau ne permettent pas aux enfants de s'initier à la natation, ce qui est utile pour prévenir les noyades. Il ne faut pas tomber dans le piège de comparer un jeu d'eau à une pataugeoire ou même à une piscine, met en garde Adèle Antonioli, chargée de projet. Un enfant n'apprend pas à se tenir dans l'eau, à respirer ou à nager dans un jet d'eau. Solution, une visite à la pataugeoire le matin, à la piscine l'après-midi et au jeu d'eau le soir. Ailleurs au Québec, des lecteurs ont vanté les attraits de jeux d'eau hors de Montréal comme ceux de Saint-Écle du parc Woodiat à Drummondville ou du parc de Lance Tibitz à Lévis. À tester si vous passez par là cet été. Sept parcs qui se démarquent, le parc Père Marquette à Rosemont, le parc de la Gare à Mont-Saint-Hilaire, Jeux d'eau Saint-Vincent à Laval, parc Aquaciel à La Salle, parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord, parc de Sardaigne à Candiac, parc Morgan à Hochelaga-Maisonneuve. Et les jeux d'eau pour Christine Latreille, c'est du sérieux. Avec ses deux garçons, elle a visité plus de 800 parcs et près de 150 jeux d'eau autour de Montréal, calcule-t-elle. Tout a commencé en 2014. Mon fils était à l'hôpital depuis longtemps et nous avions besoin de sortir et de faire des séances de physiothérapie, décrit Mme Latreille. Les parcs étaient un choix naturel. Au fil des expéditions, la mère de famille a commencé à écrire sur chacun des parcs explorés. C'est devenu le site Internet Stroller Parking, formidable répertoire de parcs et de jeux d'eau, malheureusement écrit en anglais seulement. Qu'est-ce qui plaît à ces pros? Nous aimons les jeux d'eau qui sont uniques ou différents, qui ont des zones de jeu pour différents âges, adolescents, enfants, tout petits, et qui ont de l'équipement excitant comme d'énormes jets d'eau, des ruisseaux ou des fontaines intéressantes, énumère Mme Latreille. C'est aussi pratique, ajoute-t-elle, quand il y a des tables à pique-nique ou des chaises longues à proximité, des structures pour offrir de l'ombre et qui sont clôturées. Spa. Et petit pot nouveau, deux fois par mois, notre journaliste vous donne rendez-vous pour vous faire découvrir les nouveautés qui ont attiré son attention. Iris Gagnon, Paradis, survivre à l'été, port dilaté, peau abîmée par le soleil ou la pollution asséchée ou brillante, rougeur, même si on l'adore, l'été peut parfois nous embêter. Voici notre sélection de nouveautés afin de passer à travers les journées chaudes et profiter du beau temps sans souci. Alors, une brume à base de zinc purifiante et anti-brillance et qui resserre les pores dilatés, tout en matinant la peau et en apaisant les sensations de tiraillement, voilà certainement le produit estival par excellence pour toutes celles et ceux qui ont la peau grasse ou à tendance acnéique à appliquer matin et soir sur la peau propre pour fixer le maquillage. Alors, il s'agit d'un produit qui est fait par La Roche Posay. Là-dessus, il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir. Je vous retrouve, non pas la semaine prochaine, ce sera François Brodeur qui sera là, mais mardi le 17 juillet. Je m'en vais en vacances et je vous retrouve avec plaisir. Merci Mathieu, à bientôt tout le monde.